Michel Lalisse est retraité, maire de Metz en Couture depuis 2014. Aujourd'hui, il postule pour un second mandat. À quelques jours du scrutin des élections municipales, nous l'avons rencontré pour prendre la mesure des missions et compétences d'un maire de commune rurale. Quelles sont ses prérogatives? Quels changements ont apporté les communautés de communes? Comment fait-on avec la baisse des dotations de l'État? Mais d'abord, comment et pourquoi devient-on maire?
On devient maire en étant élu dans une première phase par ses concitoyens et en second lieu par les conseillers au cours d'une réunion. Historiquement, j'en suis à mon sixième mandat, mais à mon premier mandat de maire. J'ai attendu d'arriver à la retraite pour pouvoir postuler au titre de premier magistrat, sur quoi j'avais une activité professionnelle précédemment sur la région lilloise qui ne me permettait pas de m'investir au-delà du rôle de conseiller municipal. Pourquoi je suis devenu maire ? Je crois que c'est parce que j'aime mon village, j'ai les deux pieds aussi dans la terre, j'y suis quasiment né, même si je suis né à Cambrai. J'aime la vie qu'on y mène, entre guillemets, j'y aime aussi les gens, parce qu'il faut aimer les gens, parce que quelquefois ils nous donnent quelques soucis, et il faut aller au-delà de ces soucis pour rendre des services à tout le monde dans la mesure du possible, et où c'est bien de nos compétences.
Est-ce que vous pourriez nous décrire le type de ville qui est Metz en Couture ?
Metz en Couture est un village rural, hein, comme je le précisais, à ce jour d'un peu moins de 700 habitants. Ces habitants s'appellent les culturés messins, il faut le savoir, parce que Metz en Couture vient de Metz en Culture précédemment. Leur surnom, un petit clin d'œil, chez Mieux de Tripes, les mangeurs de tripes, ou chez Interdebeau, parce que c'est un village qui est situé entre deux bois, voilà, tout simplement. C'est une commune qui est quand même active, j'oserais dire, où il y a encore quelques commerces là-dessus qu'il faut s'efforcer de tenir raisonnablement dans toute la limite du possible. Ces pôles d'attraction sont pas spécifiquement Arras, car nous sommes beaucoup plus proches de Cambrai, à une vingtaine de kilomètres de là, et aucune industrie, malheureusement. L'agriculture est encore fort présente. C'est, si on peut le préciser, le berceau de l'endive. Enfin, dans les années 55-60, c'est là que l'épopée endivière a démarré autour de tous ces villages, Bertincourt, Hermine, Ville, Tréco, etc., et qui a fait bouillir la marmite de bien des foyers pendant une bonne trentaine d'années, avant que cette culture ne s'industrialise.
Je reviens à votre poste de maire. Quelles sont les missions qui vous sont attribuées ?
Les missions sont multiples et je pense qu'il faut faire un petit peu d'historique. Il y a 50 ans, il y avait trois personnes importantes au village qui faisaient globalement tourner ce village, à savoir le curé. Il y avait l'instituteur qui généralement était secrétaire de mairie, l'instituteur avec toute son aura. Il reste un personnage, le maire, qui essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, sachant qu'il a de moins en moins d'aide, tout au moins financière au travers de l'État, et de plus en plus de responsabilités. Et même si, il faut l'avouer, et on peut le regretter, il y a une perte de compétences vis-à-vis des communautés de communes auxquelles on doit maintenant adhérer. La note, c'est celle du Sud-Artois.
Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a eu des oppositions à ces rattachements et concrètement, qu'est-ce que ça signifie en termes de gestion pour un village, pour une commune ?
Des difficultés en termes de rattachement. Notre première communauté de communes, c'était celle du canton de Bertincourt, où nous étions à une échelle, j'oserais dire, de gestion de père de famille, 18 communes. Bon, c'est quand même relativement familial. Et il a fallu, l'État nous a imposé en été de rejoindre la communauté de communes du canton de Bapaume, la communauté de communes qui allait devenir la communauté de communes du Sud-Artois, où maintenant, et tout dernièrement, nous sommes arrivés à 64 communes. Donc chacun comprendra bien que la prise de parole que l'on peut avoir dans une assemblée avec 18 communes est tout autre lorsqu'on est dans une assemblée plénière de 64 communes où chacun est un peu frileux pour prendre la parole, etc. Il faut bien souvent s'affirmer et poser les questions qu'on souhaite poser et s'en revenir avec dans sa mairie.
Et en termes de compétences, qu'est-ce qui a été perdu ?
En termes de compétences, les compétences qui n'ont pas été perdues parce qu'on le sait, on a fait valoir son avis à plusieurs communes. Hein, c'est ce qu'on appelle une minorité de blocage, notamment dans la prise de compétences eau, la distribution de l'eau. Dernièrement, la prise de compétences enseignement musical aussi, qui a échu à quelques voix près, sans quoi il y a certaines prises de compétences qui, avouons-le, sont porteuses pour nos communes. Je pense aux activités jeunesse, centres aérés, centres d'accueil de loisirs, vacances jeunes d'été, vacances diverses. Et aussi, on peut trouver quand même un appui administratif et des conseils administratifs qui ne sont pas négligeables au travers de la com dans ce qui concerne le montage de dossiers ou d'opérations dont la maîtrise d'œuvre est prise en charge par la communauté de communes. Je pense plus particulièrement à l'éclairage public qui a été au travers du territoire de la com du Sud-Artois, une opération particulièrement intéressante et visible. Maintenant, il faudrait que de telles opérations se multiplient à l'avenir aussi. C'est intéressant pour nos communes. Tout, j'insiste là-dessus, tout n'est pas à jeter aux orties, mais il est quand même de plus en plus difficile d'exister quand nous sommes une petite commune au travers de telles instances. Ce qui m'avait fait dire, à une époque, que Metz sans couture ne devait pas venir à un mot de Bapaume, et encore moins, quand on a parlé du Grand Arras, encore moins à lieu-dit d'Arras. Cela voulait dire beaucoup de choses chez moi, je ne m'en suis pas trop éloigné encore à ce jour.
Est-ce que justement les communautés de communes ne renforcent pas ce désintérêt, cet éloignement des administrés par rapport à la vie politique ?
Oui, probablement, mais c'est aussi aux maires à prendre le pouvoir qu'ils ont et à monter au créneau et à le dire ce qu'ils pensent, à faire valoir leur avis et ne pas être timide ou ne pas dire ce n'est pas à moi de prendre la décision parce que je ne sais pas, etc. Il faut pouvoir faire valoir sa parole, ses idées, même si on n'est pas majoritaire dans ce genre d'expression. Il faut se faire voir qu'on existe et qu'on n'est pas portion congrue, effectivement, dans une assemblée de 64 communes. Il est difficile pour le maire d'une petite commune de se dire qu'est-ce que je peux faire dans cette situation. Certains le font, d'autres ont beaucoup plus de mal à le faire. Et bon, nous pouvons gager qu'au travers des nouvelles municipales et des nouvelles municipalités qui vont voir le jour dans quelques semaines, qu'il y aura des nouveaux élus en tant que maire qui découvriront ces assemblées et qui auront certainement du mal à trouver véritablement leur position dans ce genre d'assemblée. Ils vont être, je pense, un peu perdus. Et c'est comme partout, c'est aux anciens à leur tendre la main et à leur expliquer avec les mots qu'ils comprennent ce qui peut être attendu de la communauté de communes, ce qu'il y a lieu de faire pour se faire attendre et surtout de dire ce qu'on a envie de dire et de faire valoir ses idées là-dessus.
On parle souvent du désengagement de l'État et notamment de la baisse des dotations. Comment ça se passe chez vous ?
La baisse des dotations, c'est une réalité, même s'il y a une stabilité qui est enregistrée depuis, je veux dire, un ou deux ans là-dessus. Il y a de moins en moins d'aides de l'État. Je pense à la DETR qui, au niveau du Pas-de-Calais, est stabilisée cependant, je dois le reconnaître. Mais il faut parfois déposer deux, trois fois son dossier pour avoir décroché une aide financière qui, en ce qui concerne la DETR, non négligeable, quand il s'agit de 25% du coût d'un projet, c'est quand même bon à prendre. Et en forme, là, j'ouvre une petite parenthèse. Nous avons été, il me semble, toujours soutenu, et je crois que c'est généralisé, par le conseil départemental du Pas-de-Calais, qui au travers du FARDA nous a accompagnés sur beaucoup, beaucoup de projets et qui rance les financements qu'on peut aborder plus léger pour nos communes. Le conseil départemental est, à mon sens, et selon mon jugement, fort proche de nos communes rurales, tout au moins.
Est-ce que ça entrave la possibilité de mener à bien certains projets ?
Les finances, c'est comme dans tout, c'est comme dans un foyer, dans une famille. Les finances, ben, ça déclenche tout, ça permet tout ou ça freine certaines ardeurs. Il y a des projets sur lesquels on est obligé de faire des choix. Je pense par rapport au chemin, aux bordurations, qui sont généralement des projets fort lourds en investissement. Et si nous n'avons pas ces aides, il faut pouvoir reporter ces projets. Reporter ces projets en termes de voirie, ce n'est pas toujours évident. Parce que quand il commence à se former des nids de poules, des rustinages, ça n'a qu'un temps et la structure des chaussées a en souffrir dans les années à venir et on perd beaucoup plus que si on avait fait les travaux relativement rapidement. Mais j'insiste là-dessus, les travaux routiers sont des travaux très très lourds et à supporter par les communes.
Lors des mouvements sociaux de l'année dernière, bon, qui se poursuivent toujours d'ailleurs, mais lors du mouvement des Gilets jaunes, au départ, on a beaucoup parlé de cette France périphérique qui se manifestait parce qu'elle se sentait en quelque sorte abandonnée. Est-ce que c'est vous quelque chose que vous avez pu constater ?
Les traces en notre village de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est résumé à effectivement quelques gilets jaunes soit déposés devant sur les tableaux de bord des véhicules des particuliers ou soit encore accrochés aux clôtures, aux devantures en termes un petit peu d'étendard, mais ça s'est resté tout à fait gentil et partant du principe où nous n'avions pas de rond-point, nous ne craignions pas grand-chose sur cet aspect-là. Mais faut-il craindre les gilets jaunes ? Ça, je n'irai pas jusque-là parce que c'est un droit d'expression qui est quand même efficace, on l'a vu, ils sont écoutés, même si on peut regretter certains débordements qui leur appartenaient pas systématiquement.
Est-ce que des habitants ou habitantes sont venus vous trouver par rapport à ça ?
Effectivement, il y avait un cahier d'oléances où j'ai eu quelques observations là-dessus, plutôt d'ordre généraliste, entre guillemets. Ce cahier est monté en préfecture. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, hein, j'avoue. J'ose espérer que ça t'ait pris en considération. Mais il n'y avait pas dessus de remarques de nature à éclairer, il me semble, nos ministres ou nos ministères sur des solutions. C'est un sujet qui est pas facile, mais qui mérite d'être creusé. On le voit au quotidien, quoi. Je veux dire, nos politiques ont quand même du souci à se faire par rapport à ce mouvement de base qui est toujours là en gestation un peu chez nous, quoi.
On est à quelques jours du premier scrutin des élections municipales. Qu'est-ce qui vous semble être les thématiques qu'il faut porter, qu'il faut mettre en avant en 2020 ?
Manifestement, on ne peut pas nier qu'il y a l'environnement qui occupe une des premières places des sujets de nos concitoyens. Si bien sûr, je fais abstraction du coronavirus qui est présent et qui inquiète beaucoup de monde. L'environnement, c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est pour nos futures générations qui sont là. Mais aussi, je m'inquiète parce que quelque part, on parle surtout de futures générations. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement les adultes qui pensent à l'évolution de notre environnement. Toujours regrettable de voir, et c'est valable aussi chez nous, les bords de chemin, notamment les routes départementales, qui sont jonchées d'emballages, de food trucks ou autres, ou de bouteilles d'alcool plus ou moins fort. Je me dis que ça vient quand même des plus jeunes, de jeunes de 20, 30 ans, sans faire de sectarisme, et partant du principe où bien sûr tout le monde n'est pas à mettre dans le même moule. Voilà, en quelques mots, je n'irai pas plus loin sur le terme d'environnement. Il y a beaucoup de termes, les engagements politiques, etc. On voit qu'on a plus en plus de mal de trouver des candidats pour gréer nos conseils municipaux. Jusqu'où ça peut aller ? Jusque maintenant, ça va, on a toujours réussi à doter nos communes, et notamment rurales, de conseils municipaux. Est-ce que la tendance va s'inverser ? Je n'y crois pas. Il faudrait que nos politiques aussi prennent en compte, plus qu'ils ne le font, les termes de la ruralité. C'est un peu... Et quand je dis ça, c'est surtout pas en faire des zones, des parcs, hein, surtout pas. C'est donner les possibilités à nos communes de vivre correctement, sans faste particulier. J'insiste là-dessus, il n'est pas question de faire les villes à la campagne. Chacun a son rôle. Urbains et ruraux peuvent cohabiter ensemble sans problème en se respectant les uns les autres.
J'aimerais revenir juste un petit peu sur cette question de la difficulté de trouver des prétendants aux postes municipaux. Alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Comment on pourrait y remédier? Est-ce que c'est lié aussi à la complexification administrative des missions que doivent remplir un maire?
Cela dépend des territoires. Si sur un territoire, il y a quelque chose qui intéresse la population, qui la fédère ou qui la divise, on voit bien que c'est plus facile d'avoir deux listes concurrentes qu'une seule. Dans les communes où il n'y a pas grand-chose qui bouge, pas beaucoup d'intérêt pour la vie partagée entre les citoyens, on a du mal à trouver suffisamment de nombre de candidats au poste de conseiller pour gréer nos conseils. Dans les communes qui sont un peu plus... sur lesquelles il y a des thèmes, en vérité, on le voit bien, je ne citerai pas le village, mais il y a un village où il y a, je crois, un peu moins de 500 habitants, où il y a trois listes. C'est à la fois un bien et une difficulté. Un bien parce que ça prouve la vitalité des gens. À condition qu'ils soient conscients de jusqu'où peut être leur engagement s'ils sont élus. C'est pas le tout d'être candidat. Après, ce que je dis toujours, c'est conseiller municipal, c'est pas une carte de visite, hein, c'est une fonction. Un adjoint encore plus et un maire beaucoup plus, j'oserais dire. Et ça peut être aussi un mal, parce que ça peut créer un fossé entre deux, trois parties du village. Et on n'est jamais aussi fort hein, que lorsqu'on est groupé. Hein. L'union fait la force, ça c'est pas nouveau, ça a toujours été répété. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais on sent dans certaines communes l'envie encore de porter les valeurs de la commune, l'image de la commune, l'image du clocher. Hein, même si, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, l'image de clocher peut être aussi atténuée par nos communautés de communes hein, qui sont devant avec un étendard et derrière ben, nos clochers disparaissent un peu. C'est clair, il y a un juste milieu, c'est comme dans tout, il y a un juste milieu à trouver. Je ne suis pas sûr qu'on l'a encore trouvé, hein, mais espérons qu'on peut y venir. Hein.
À notre micro, Michel Lalis, maire de Metz-en-Couture, commune située à l'extrême sud du Pas-de-Calais, rattachée à la communauté de communes Sud-Artois.